Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Il est 22h47, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, et Julien Laurence est resté avec nous. Pas mal de réactions sur notre sujet là, sur ces insides. La Doud nous rappelle qu'il y a eu un inside sur Lens, sur l'équipe 21, qui avait été à l'époque produit par notre ancien patron François Pesanti, qui était pas mal, c'est vrai, on l'a pas cité. Et puis j'ai Odus qui nous dit, quand on voit déjà que le PSG a interdit à Paganelli d'aller discuter sur le banc après l'arrivée de QSI, donc c'est vrai. Après, certains clubs interdisent l'accès aux...
une grosse perte.
Après, ouais. Il aurait parlé en quelle langue?
Ah oui, peut-être.
Et de quoi, surtout?
Et puis, oui, pour conclure sur Arsenal, quand même, Julien, est-ce que tu penses que cette saison sera d'une autre qualité que la saison dernière?
En tout cas, elle a bien commencé, déjà. Elle est prometteuse dans ce qu'on a vu dans le jeu, ce qu'on pu apporter pour l'instant les nouvelles recrues, comme Gabriel Jesus, par exemple, qui a été fantastique contre Leicester samedi. Zinchenko, qui est pour moi l'un des transferts de l'été, tellement il apporte et il a un QI football extraordinaire. Et donc, c'est vrai, on n'a pas encore vu un Fabio Vieira, par exemple. Il y a encore.
C'est qui le joueur dont tu as parlé avant?
Zinchenko de ouais. Manchester City.
Non mais je sais pas, quand on faisait les chapeaux et tout, je disais c'est un super joueur, j'adore et tout. Vous me l'avez tous bâché.
Non, je l'ai pas tous bâché. Je sais pas s'il est dans les meilleurs latéraux du monde, arrière gauche du monde. Tu vois, chapeau 1 ou 2.
Pour moi, il est chapeau.
Mais hein. C'est vrai qu'en tout cas, il est
un là, super tu vois, joueur. Il est intelligent, il peut jouer à plusieurs postes en plus.
C'est vrai, mais défensivement, tu sens que c'est un ancien joueur offensif. Ça se sent parce qu'il a des manquements défensifs.
Bah, comme avec beaucoup de latéraux dans l'histoire. Hein,
tout à fait.
La plupart,
d'ailleurs, celui qu'ils ont acheté, le Gomez qu'ils ont acheté à Anderlecht pour le remplacer, c'est un numéro 10 aussi, et ce sera la même chose. Mais ça plaît à Pep, donc c'est pas un problème. Mais donc je pense que ça peut être une très belle saison. On sent Arteta, et on l'a vu pour finir là-dessus, on le voit dans le documentaire, qu'il a des idées très précises sur ce qu'il veut dans le jeu et dans l'attitude de son groupe. Et donc c'est vrai que pour l'instant c'est bien parti. Il y a que Arsenal et City qui ont gagné pour l'instant leurs deux premiers matchs de championnat. Donc c'est vrai que c'est plutôt encourageant.
Allez, ça peut faire le top 4. Le comeback en Ligue des Champions.
La quatrième place, je pense qu'elle peut être pour eux. Ouais.
Ah, ça y est, le rêve est revenu chez Julien. Allez, Arsenal en Ligue des Champions, on vient tous deux jours à l'île de Ré.
Ah bah juste oui, avant de parler de Kouassi quand même, qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir de l'info qui fait état d'une vente éventuelle de Manchester United? Les Glazers seraient prêts à vendre à près de 6 milliards d'euros. Et là, évidemment, qu'est-ce qui ressort? Ineos, qui serait intéressé. Comme ils étaient
alors, c'est pas
par
une vente totale. C'est pas une vente totale. C'est une vente de parts minoritaires dans le club.
Pour 6 milliards, t'as même pas la totalité du club.
Non. Mais ils sont prêts à ouvrir un petit peu le capital et donc à vendre quelques actions pour un investisseur. Ce qui est pas nouveau. Même avant la crise du début de saison, même avant la saison pourrie de la saison dernière, ils avaient déjà cette idée-là en tête, tout simplement pour récupérer un peu d'oseille. Comme de toute façon, il faut le rappeler, c'est la poule aux œufs d'or pour eux. Manchester United, c'est tout ce que ça représente. Ça représente rien d'autre. C'est juste un autre business pour faire de l'argent, le plus d'argent possible. Et donc d'avoir un autre investisseur minoritaire qui viendrait et qui, par exemple, mettrait 1 milliard pour 15% des parts du club, ça les intéresse forcément puisque ça fait 1 milliard dans leur poche. En revanche, pour la vente totale, on n'en est pas encore là. D'ailleurs, Radcliffe, dès qu'il a entendu parler de cette ouverture possible de capital, enfin en tout cas d'un investisseur minoritaire au club, lui s'est porté candidat, puisqu'on sait que c'est un supporter à la base de Manchester United, hein, quand il a voulu racheter Chelsea. Là, d'ailleurs, un des problèmes que ça avait causé, c'est que tout le monde lui avait dit, attends, pourquoi tu veux acheter Chelsea alors que c'est pas du tout ton club, que tu es supporter de Manchester United, depuis toujours, depuis qu'il est tout petit. Donc c'est vrai que lui s'est porté candidat tout de suite via un porte-parole qui connaît très bien le journaliste du Times, Matt Dickinson, qui a écrit l'article, qui a sorti l'info. Et ensuite, le porte-parole de Radcliffe a dit, et si un jour les Glazers veulent vendre donc toute leur part à eux du club, là ils seraient prêts à venir et là à mettre carrément les 6 milliards d'euros pour tout racheter.
D'accord.
Mais aujourd'hui, la vente totale n'est pas d'actualité.
Bon, très bien.
Les Glazers qui sont aussi propriétaires, on le disait tout à l'heure pour les Cronkies, mais d'une franchise de NFL, les Tampa Bay Buccaneers.
Je me demande jusqu'à quand ils estimeront qu'ils s'y retrouvent, les Glazers.
Tant que ça vendra des maillots. Hein.
Mais là, ça commence à.
C'est quelque part ma question, rapporter. Kevin.
Ou enfin, vendre des maillots, ça, c'est un clicheton.
Mais voilà, en plus.
Oui, t'as compris, quoi. Oui. Business, tant que le business tente.
Vendre des maillots par rapport à ce qu'ils dépensent, c'est rien du tout. Hein. C'est autant dire que c'est.
Je pense qu'ils s'y retrouvent quand même.
Ah bah ils prennent des dividendes tous les ans. Hein. Ils prennent en moyenne 20 millions.
Mais moi, c'est pas la vente de maillot qui fait le chiffre d'affaires du club.
Non. Vu les pertes, 20 millions les transferts, dividendes. Tout ce qu'ils ramassent comme banane en dépenses, je veux bien qu'ils ramassent des dividendes tout le temps, mais j'aimerais vraiment les connaître.
20 millions, t'as dit.
Ah non, mais c'est 20 millions en moyenne, 20 millions par an depuis qu'ils ont arraché le club. Donc ils prennent pour mettre dans leur compte en banque à eux.
Avec tout ce qu'ils achètent et tout ce qu'ils dépensent en masse salariale et en transferts ratés.
Ah, mais ça, c'est de l'argent qui est. C'est pas leur argent. Eux, ils n'ont jamais mis un centime dans le club.
En gros, ils n'ont pas de raison de faire améliorer la situation sportive du club s'ils rentrent 20 millions par an. On va dire que, je ne sais pas moi, briller plus en Ligue des Champions ou y être ou ne pas y être. De toute façon, en Angleterre, de toute façon, tu touches des droits télé qui sont colossaux, donc tout va bien pour toi. Visiblement, en Asie, United continue d'être populaire. Là-bas, il y a des coins où quand on développe le football, j'ai l'impression que les gens se foutent même de savoir les résultats. En fait, tu développes le truc, tu développes le joueur, tu achètes le maillot du joueur et tout, en fait, mais tu sais combien ils sont classés, ils sont bons ou pas? Oh non, on n'en sait rien. Bon, c'est le nouveau football.
Sauf que City a du succès, Daniel, c'est pas 20 millions qu'ils prendraient, ce serait 50. Donc forcément, pour eux, il faut que si les résultats s'améliorent, s'il y a des trophées qui reviennent, s'ils sont en Ligue des Champions régulièrement, etc., s'il y a plus d'argent dans le club encore, pour eux, c'est toujours bénéfique. Forcément. Et puis je pense qu'ils commencent à en avoir un petit peu marre aussi de se faire insulter partout dès qu'ils vont au stade, etc. C'est pas bon pour leur business, c'est pas bon pour leur image non
je
plus
suis
en
d'accord.
tant que famille Glazer.
Je suis d'accord, il y a une limite à ça, c'est pour ça que je disais, jusqu'à quand ils vont accepter que cette situation se détériore à ce point, parce que là on a le sentiment que Manchester United, qui a connu dans son histoire des périodes très très creuses et très longues où il ne faisait plus
rien,
mais dans le football actuel où c'est beaucoup de l'économie des parts de marché et tout ça, ils dégringolent toujours plus quoi.
Allez, passons à Tanguy Kouassi, les gars. Donc Kouassi à Séville, c'est fait, info du jour de notre nouveau fin limier Fabrice Hawkins. Qui nous fait savoir que le transfert est de 20 millions d'euros, contrat de 5 ans. Il aura le numéro 14, tout ça est précis. Mais la question, finalement, est plus fondamentale sur le parcours de ce joueur. On se rappelle quand il est parti du PSG, il y a eu de nombreuses polémiques et de débats. Ouais, le PSG, ils ne savent pas garder leurs jeunes. Kouassi, il aurait peut-être fallu le garder pour lui donner sa chance. Lui, il dit, ouais, mais moi j'ai le Bayern, Paris, je ne suis pas sûr de jouer. Au Bayern, on m'a fait des promesses. Moralité, au Bayern, il n'a quasiment pas joué. Et il se retrouve maintenant à Séville pour remplacer Koundé. Donc, il sera titulaire à Séville.
Non, moi, je ne sais pas comment tu peux affirmer qu'il sera titulaire.
Ouais,
j'en sais rien.
Ça.
Alors, c'est le priori.
En tout cas, qui part pour être titulaire.
Et voilà, on peut considérer ça.
Il n'y a aucun joueur qui part pour être titulaire, non. Surtout quand c'est un mec qui a zéro expérience au haut niveau. Arrêtez de me faire croire ça. Je ne dis pas qu'il ne le sera pas. Je dis, vous ne pouvez pas affirmer qu'il le sera.
Disons, quand on part recrute, pour l'être. Qu'on te prend pour être titulaire, clairement.
Ouais.
Ok, bah.
Après, bien. Est-ce que tu l'es ou pas? C'est autre chose.
Non, mais la question est la suivante, au fond. La trajectoire de Kouassi, vous la voyez comment aujourd'hui? Vous vous dites, attention, il est passé à côté de quelque chose ou finalement, bah.
Il est passé à côté de quoi? Il est à Séville.
Voilà.
C'est peut-être justement la preuve que c'était plus un joueur.
Ça fait beaucoup de débat parmi les fans de foot.
C'était peut-être plus un joueur pour un club du calibre de Séville que pour une équipe type PSG ou Bayern Munich. C'est pas les mêmes chapeaux en termes d'exigences et d'attentes.
Mais
donc peut-être qu'il est jeune et qu'il va devoir aller faire quelques années à Séville avant d'envisager s'il est bon, parce que personne ne sait s'il est bon. C'est quand même, vous me faites rire, vous dites, il y va pour
le Bayern, il ne recrute pas si t'es mauvais quand même.
Mais, okay, le mec n'a jamais joué.
Si, mais attends, mais les mecs, même s'il avait fait quelques matchs, je sais pas exactement combien, mais
il avait 20 matchs en tout, Kevin, qu'on verrait un mec qu'on a dit devenir très fort, qui fait pas sa carrière.
Mais attends, Daniel.
On a plus souvent vu ça que le contraire. Moi, je suis Saint Thomas. Moi, d'abord, il me montre qu'il est bon. Je dis pas qu'il est pas bon. Je dis, je ne sais pas. Non, je ne sais pas.
Je te dis pas qu'il y a une différence entre être un très bon joueur et être un bon joueur à son âge. C'est quelqu'un qui est dans le groupe du Paris Saint-Germain, un des plus grands clubs du monde. Si t'as les pieds carrés, normalement, t'es pas dans le groupe du Paris Saint-Germain. Ensuite, il est dans le groupe, il joue, il a fait quelques matchs.
Mais pareil, des pieds carrés au PSG, je peux t'en citer, hein.
Mais Daniel, sur les cinq dernières années, des jeunes qui ont joué au club, qui ont les pieds carrés, il y en a pas des. C'est pas la majorité quand même. Tu peux pas me dire que Kalimundo, on peut penser qu'il a pas le niveau peut-être pour être titulaire au Paris Saint-Germain, mais c'est un bon joueur de foot. Donc si t'es dans l'équipe, dans la rotation, même si tu joues que quelques bouts de match, t'as des qualités. Dina et Bimbe, etc.
Je ne sais pas quel niveau il aura.
On ne sait pas quel niveau il aura.
Mais quand bon, il aurait joué plus avec le Bayern aussi. Hein.
Voilà, mais quand le Bayern te recrute, c'est parce qu'ils ont vu des qualités, ils ont été voir des matchs de réserve.
Pourquoi le Bayern, hein.
Mais ils font un pari, ça leur coûte rien à leur échelle. Ça leur coûte rien de prendre un joueur qui est libre, sur lequel ils vont parier. Pour eux, c'est des cacahuètes de prendre un joueur, un jeune joueur du PSG. Ils sont même capables de mettre 25 millions sur un mec de 16 ans du Stade Rennais. Donc un mec gratuit au PSG, ben c'est pour eux, c'est un pari.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont pas trouvé assez bon?
Ils l'ont vu à l'entraînement. Ah oui. Je crois qu'il s'est blessé au début quand même. Après, ils l'ont vu à l'entraînement. Est-ce qu'il a été bon? Est-ce qu'il s'est adapté? Est-ce qu'il a appris la langue?
S'ils avaient pensé que c'était un crack, ils le gardaient.
Non, mais bien sûr. Bon. Bien sûr. Après, derrière, il y a l'opportunité.
Là-dessus, on est au moins d'accord.
Derrière, oui, mais il a fait quand même quelques matchs en fin de saison dernière. Ensuite, il y a l'opportunité Matthijs de Ligt.
Okay.
Je te donne un exemple. Il y a l'opportunité Matthijs de Ligt. Tu prends Matthijs de Ligt. Du coup, ça ferme la porte pour un Tanguy Kouassi, quoi qu'il arrive, peu importe le temps que tu lui prêtes.
Ça veut dire qu'ils estiment.
Non, mais tu peux pas comparer Matthijs de Ligt qui vient de 5 saisons au niveau avec Tanguy Kouassi qui vient d'arriver.
Alors, trajectoire positive ou pas, Julien, pour toi?
Moi, je pense qu'il est parti un petit. Moi, je pense qu'il est parti un petit peu tôt. Oui, je sais pas s'il a été très bien conseillé. S'il avait eu le niveau, il aurait joué au Bayern. Il serait peut-être pas allé chercher un Upamecano. De Ligt, c'est peut-être un petit peu différent, mais il serait peut-être pas allé chercher Upamecano non plus. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce contrat-là à Séville, il y a quand même une clause de rachat pour le Bayern.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'ils sont pas complètement idiots. Ça veut dire que s'ils brillent avec Séville, ils seront les premiers à venir le rechercher et il reviendra au Bayern. Et là, il sera plus expérimenté, il sera meilleur et il pourra jouer. Donc, je pense qu'ils savent très bien qu'il est talentueux et qu'à un moment, c'est quand même compliqué, hein, de se faire une place au Bayern Munich aussi. Donc, voilà. Mais moi, j'ai pas envie qu'il ait perdu 2 saisons. Et on verra. Daniel a raison. On sait pas encore s'il va s'imposer à Séville, s'il va s'imposer en Liga, s'il va avoir les qualités pour. Bien sûr que sur le papier, normalement, ça devrait le faire. À côté de lui, il aura quand même Karim Rekik au départ, hein, parce que c'est Rekik qui jouera à côté de lui ou Goudel, mais c'est un des deux. Donc il faudra aussi qu'il s'adapte à tout ça. Après, on verra. Mais même si t'as appris pendant 2 ans, même si t'as appris pendant Karim Rekik et Goudel, qui étaient les deux titulaires en championnat quand ils ont perdu le week-end dernier, mais même si t'as beaucoup appris en t'entraînant avec Thomas Müller, avec Hernandez, avec tous ces joueurs-là au Bayern, d'accord. Mais t'as quand même aussi perdu ton temps. Pendant 2 ans, t'as pas beaucoup joué. T'as joué avec la réserve et c'est tout, quoi. Et ouais, donc, je pense que c'est mitigé.
Qu'on progresse, hein.
T'aurais pas plus joué au PSG, au final.
Ah, je sais pas, ça. Je sais pas, ça.
Non, ça, je pense pas.
Je sais pas.
Ça, pour le coup, vu les
Julien, joueurs, merci beaucoup.
Salut, Julien.
Merci, les gars.
Et à très vite pour l'actu anglaise et le reste, hein, évidemment, ensemble. Voilà pourquoi si. On va voir s'il joue les prochains matchs, bien sûr, et s'il est titulaire ou pas. Dans un instant, c'est l'OM qui est au programme, plus l'actu mercato du jour, puisqu'il faut qu'on fasse un petit point, là. Hein. On est à la mi-août, et il est temps de prendre un peu de hauteur et d'analyser ce que font Longoria, Tudor et les autres. C'est tout de suite supporter de l'OM. On vous attend au 32-16. Et puis les deux résultats définitifs en barrage aller de Ligue des Champions. Benfica a définitivement battu le Dynamo Kiev 2-0. Le Maccabi Haïfa a battu l'Étoile Rouge de Belgrade 3-2 avec un doublé du joueur haïtien Pierrot. Tu connais celui-là? Ancien de Guingamp.
Bah oui, son nom me dit quelque chose en tout cas.
Voilà. Franski Pierrot. 2-2.
Et ben bravo.
Jeune haïtien. Allez, à tout de suite dans l'after.
L'After Foot,
20h minuit sur RMC.